Hola.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueule.
Bonsoir, Kéola, good evening, vous êtes sur Amuse Gueule, une émission comme de coutume placée sous le signe de la jeunesse et de la beauté et du barbecue pour deux ce soir, puisque c'est un barbecue à la chandelle qui se passe ici-bas en ce tout début d'hiver entre moi et Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Bonsoir Romain.
Merci. On en avait un peu marre de cet été qui n'en finissait pas. Ça devenait un peu répétitif à la fin.
Mais c'était long, hein. Le week-end passé, c'était encore l'été, quoi.
C'était encore l'été. Pendant le week-end du Pâques, je me suis rendu à Coromandel où j'ai nagé comme un dauphin.
Et moi, j'ai nagé le week-end passé.
Le week-end passé.
Ouais.
Et tu es fringant. Tu l'as pas changé. Ça t'a pas traumatisé.
J'ai pas attrapé de pneumonie. J'ai séché au soleil.
Donc on en avait un peu marre quand même à la
ouais,
fin.
Là, je crois que c'est le temps qu'il nous fallait, quoi.
Ouais. Et se réveiller en voyant des palmiers sur fond bleu, ça va deux secondes, quoi.
Ouais, tandis que là, maintenant, on se réveille, il fait tout noir, il pleut, fait froid.
Ouais, puis on est...
Ça change.
Ouais. On est auprès de la cheminée. En parlant de feu de cheminée, on va passer du Jean-Pierre Mariel. Je parle de Jean-Pierre de feu de cheminée à cause de sa voix. Longtemps comparé à du velours, mais à du feu de cheminée aussi. C'est une belle voix grave, virile, si souverainement virile qu'elle pouvait s'accommoder de beaufries, de bêtises.
Tu peux nous rappeler qui est Jean-Pierre Mariel?
Bah tu connais Jean-Pierre Mariel?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Du tout.
Pas du tout. Du tout. On m'a parlé de Jean-Pierre Mariel, mais c'est pas le même. Hein.
Non, Mariel.
Mariel. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Et pourquoi on en parle, en fait?
On en parle parce qu'il est mort il y a une semaine ou deux.
Ok.
Mmh. C'était un grand acteur qui a joué dans beaucoup de nanars, mais des nanars devenus cultes, comme Les Galettes de Pont-Aven, comme Con comme la Lune.
Tous des trucs que je connais pas.
Et Calmos aussi, de Premier Blié. Un mec qui était de la même génération, et je crois du même cours d'art dramatique que Jean Rochefort.
Ah ouais.
Il avait en commun avec lui un front dégarni et une belle moustache. Et puis c'est cette voix reconnaissable entre mille.
D'accord. On peut l'entendre?
On peut l'entendre. On la passera après, parce que je vais vous passer une bizarrerie, une rareté. C'est notre Jean-Pierre Mariel qui lit un conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. De sa belle voix. On l'a entendu beaucoup lors des commémorations, des grossièretés. Bien là, on va entendre sa belle voix mise au service des enfants. Mais là, tout de suite, on écoute Il pleut, chanson de circonstance du grand Jacques.
Le grand Jacques.
Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tous ceux-là qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois, les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer, je vois les cheminées de la ville fumer doucement dans mon ciel à moi. La lune danse pour moi le soir.
Elle danse, danse, elle danse, danse. Et son haleine immense à l'eau me caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir et j'y plonge ma peine. Il pleut et c'est ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine. Moi, j'irai les casser.
Ça m'étonne vraiment que tu connaisses pas Jean-Pierre Marie. C'est
moi, j'ai un côté un peu inculte. Moi, la plupart du temps, quand je regarde un film, je sais pas qui est le directeur, je sais pas qui sont les acteurs.
Tu regardes pas le film, tu l'écoutes à
si,
moitié.
Si, je regarde le film.
Dans la cuisine, tu fais la vaisselle.
Ça m'intéresse pas du tout de savoir que l'acteur s'appelle Trucmuche, quoi. Tu vois.
Oui, en fait, là, tu viens d'avoir une photo, tu ne l'as pas reconnue.
Alors j'ai déjà vu cette tête.
Et je pense que là...
Il m'a fait penser à Monsieur Noiret.
Oui.
Jean-Pierre Noiret.
Philippe Noiret.
Philippe Noiret.
Avec qui il a partagé l'affiche des Grands Ducs. Et c'était à la fin de leur carrière. Ça remonte à 15 ans déjà. Eh bien voilà. Je pense que c'est... plus une tête qui s'oublie qu'une voix qui s'oublie, parce qu'elle est inoubliable. Elle est feutrée, elle est grave, elle est puissamment virile. Tiens, écoute ça, c'est Marielle en 10 répliques cultes. C'est Le Monde qui avait publié ça récemment. Ça va venir.
Et ça, je lui en arrive.
Zéro.
Enfin, vous n'avez pas de coffre, bon sang. La retrouve très maladroite de votre part, de vous montrer désagréable. Et de votre chérie.
Si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter plus haut que votre fils.
Écoutez, hein. Ne me poussez pas à bout, parce que c'est moi qui vais vous faire sauter, je vous satellite.
Amusant.
Et comment?
Vous savez, regardez, ça c'était le grenier avant. Regardez maintenant.
Ça c'est
tout
un sex shop.
Sofa, lumière d'ambiance. Bah tiens, ça c'est mon agence. Non, parce que j'ai une agence aussi. Quand j'ai eu fini de retaper pour moi... je me suis dit, après tout, pourquoi je retaperais pas pour les autres, c'est vrai. Les gens sont cons, faut en profiter.
Je me suis trompé sur mon destin, mon cher. Je ne suis pas un grand fauve, mais plutôt un animal de salon. Le genre chihuahua.
Ah, je renais.
Et voilà les fameuses galettes de Pont-Aven.
Ah, je reviens. Oh, nom de Dieu, de bordel de merde. Je suis complètement cinglé.
Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît.
Calmos.
Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert?
Ça ne me regarde pas, monsieur.
Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Oh, il est très aimable.
En quel honneur?
Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte.
De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs.
Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien.
Vous voyez pas que c'est un homme fatigué, à deux doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi?
Et oh, Poussin, ne trouve pas que j'ai un peu repris, là?
Mais non.
Con comme la lune.
J'ai plus mon damier, comme d'habitude. Ouais, peut-être que je repense au dégraisseur, non?
Tu sais bien que c'est mauvais pour toi, le sonar.
Oh, bordel. J'ai bien polochonné cette nuit. Et toi?
Moi aussi.
Oh, putain. Ça fait du bien de ronfler comme ça.
Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme
coup de torchon?
Pas toujours, hein.
Avec Philippe Noiret.
Ça suffit à nous excuser.
Un coup de foudre, ça ne se commande pas. Ça se consomme.
Les grands ducs. Rochefort. Noiret encore.
Oui, parfaitement, Gondole. Je suis désolé. On se plaît, c'est physique.
Bon, elle est peut-être un chouïa frappé, ça je dis pas.
Il y a deux races de femmes, les frappées et les sournoises.
En tout cas, avec elle, si je veux tenir, il va falloir que je mette une claquette.
Vous connaissez Monsieur Marielle? Très heureux, j'ai beaucoup aimé votre dernier film.
Ah oui?
Très bon.
Vous vous souvenez du titre ?
Oui, c'était pas quelque chose avec buissons. Les buissons. Derrière les buissons.
Non, il n'y avait pas de buisson. Aucun buisson.
Qu'est-ce qu'il y avait alors?
Il y avait un pot d'eau chaude.
Pot d'eau chaude? Pourquoi faire?
Je suis Jean-Pierre Marielle.
Oui.
L'acteur.
Oui, je vois.
Voilà.
Bon.
C'est tout.
D'accord.
Zana Kotnitch.
Dommage que dans cette sélection, il n'y ait pas eu d'extrait de Tous les matins du monde. Donc, tu as peut-être entendu parler sur, sur la musique baroque.
J'ai vu aucun de ces films.
Très très bien. Aucun de ces, films. Mais tu as de la chance. Tu as de la chance. Parce que je vais te recommander.
Comme ça, je vais pouvoir la regarder.
Ouais, dont notamment le brillantissime, scandaleux Galette de Pont-Aven. Très 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 curieux.
Je vais mettre ça dans ma liste de films à regarder. Galette de Pont-Aven.
Une sorte de révolution, de crise de la quarantaine souveraine. Enfin, c'est un film sur ce que ça veut dire que d'être un homme et de découvrir qu'on passe de l'autre côté.
De quel autre côté?
Celui de la vieillesse, celui de la répétition, celui de la rareté des premières fois.
Un peu triste.
Bah ouais, c'est ça.
De
pire encore de vieillir, comme dirait encore Jacques Brel. Bon, on écoute un petit peu de musique avant d'écouter la belle voix chaude de Jean-Pierre Marielle lire du Andersen. Allez, on écoute Jacques Dutronc qui chante Le Petit Jardin.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. terrain. Eux sont rangés comme des parpaings, les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour.
Puisqu'on était, on en était au sujet du cinéma, et j'ai eu une belle surprise récemment. J'habite à Avondale et j'ai eu la joie de voir que The Hollywood Cinema d'Avondale a réouvert ses portes après avoir fermé suite à l'ouverture du multiplex de New Line. Il s'est effondré sous cette concurrence-là pour ouvrir ses portes à la manière d'un cinéma de quartier, un cinéma du quartier latin. En diffusant, figurez-vous, des films en 35 mm, des raretés, des films cultes, des classiques. Récemment, ce fut Raging Bull. Ils ont passé, pendant les vacances scolaires, des Walt Disney des années 40 ou 50. Je parlais de Pinocchio, par exemple. Imaginez, en 35 mm, donc avec ce beau grain de l'écran, la poussière qui défile, l'image qui saute. Et c'est tout à fait délicieux, l'écran est grand, le son est bon, la programmation est surprenante. Ils ont repassé The Rocky Horror Picture Show, ils ont fait une nuit Mad Max, ils ont passé les quatre Mad Max à la suite. Ils ont aussi, j'avais été le voir avec ma fille qui en est grand fan, Labyrinthe avec David Bowie, film des années 80. La salle était pleine, ça applaudissait à la fin. En début de film, ils passent soit des vieilles réclames à la façon de dernière séance, je me souviens. Ils passent aussi des courts-métrages ou des vieilles séries. Avant Labyrinthe, on avait eu droit aux Three Stooges, série complètement idiote des années 50 en noir et blanc. Le tout pour un prix modique, 12 euros. Il est difficile de savoir ce qui... $12, pardon. Voilà. Ils font des programmations spéciales. Par exemple, vendredi soir, ils avaient passé Boys in the Hood. En hommage à John Singleton, qui était mort quelques jours auparavant, le premier metteur en scène noir à gagner un Oscar. Ils font ce genre de choses. Ils passent tous les vendredis soirs. Ils passent The Room, qui a la réputation d'être parmi les films les plus mauvais de l'histoire du cinéma. C'est très 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 bien, allez-y. Et
ça s'appelle comment?
Donc c'est The Hollywood Cinema, et le lieu est magnifique, puisque c'est un cinéma à art déco, bâti dans les années 20. C'est sur deux étages, on y est bien assis, on y vend de l'alcool et des pop-corn. Les gens qui viennent, c'est un mélange de beaucoup d'étudiants, c'est tout à fait rafraîchissant, c'est très 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 bien. Et donc abonnez-vous au site, à leur site, et parce que les programmations sont très imprévues, on les connaît que quelques jours à l'avance, et ça fonctionne de façon très curieuse pour ça.
De Hollywood salle,
cinéma.
Hein.
Qu'une seule, oui, c'est un cinéma tel qu'il en existait. Ouais, dans...
C'est cool.
Cinéma de quartier. Très très bien. Bon, on écoute maintenant le grand Jean-Pierre qui nous lit de sa voix de feu de cheminée les habits neufs de l'empereur, et c'est une belle rendition, c'est bien écrit, et les enfants peuvent revenir dans la pièce. À tout de suite.
Les habits neufs de l'empereur.
Thank you.
Il y a de longues années, vivait un empereur qui raffolait tellement des habits neufs qu'il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ni de théâtre, ni de promenades dans les bois, sinon pour montrer ses vêtements neufs. Il possédait un costume pour chaque heure du jour, et comme on dit habituellement d'un roi, il est au conseil. On disait toujours de lui, l'empereur est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup et chaque jour arrivaient de nombreux étrangers. Un jour, vinrent deux escrocs qui se dirent tisserands et capables de tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on pût imaginer. Non seulement ses couleurs et ses dessins en seraient exceptionnels, mais les vêtements confectionnés dans cette étoffe posséderaient une étonnante propriété. Ils resteraient invisibles aussi bien aux yeux de ceux qui rempliraient mal leurs fonctions qu'à ceux des simples idiots. Des vêtements précieux, se dit l'empereur, si j'en possédais de pareils, je pourrais découvrir qui de mes sujets ne convient pas à son emploi et distinguer les gens intelligents des imbéciles. Alors, oui, je dois sur le champ me faire tisser cette étoffe. Et il versa aux deux escrocs une avance considérable sur leur travail pour qu'ils commencent leur ouvrage. Les deux vauriens installèrent aussitôt deux métiers à tisser et firent semblant de travailler. Car il n'y avait ni fil ni laine sur le métier. Ils réclamèrent bientôt la soie la plus fine et l'or le plus précieux. Ils jetèrent le tout dans leur sac et continuèrent à faire semblant de travailler sur leur métier vide jusqu'à des heures avancées de la nuit. « Je voudrais bien savoir où ils en sont de leur étoffe, » pensait l'empereur. Mais il se sentait inquiet en pensant qu'elle resterait invisible aux yeux des sots ou de ceux qui conviennent mal à leurs fonctions. Même s'il pensait n'avoir rien à craindre pour lui-même, il préféra envoyer quelqu'un voir comment l'affaire avançait. Et chacun dans la ville connaissait les qualités exceptionnelles de l'étoffe, et tous attendaient avec impatience de voir combien leur voisin était inapte ou idiot. « Je vais envoyer mon vieux et brave ministre auprès des tisserands, » se dit l'empereur. « Personne mieux que lui ne peut juger l'allure de l'étoffe. Je ne connais personne d'une plus grande intelligence, ni plus capable que lui. » Le vieux et bon ministre alla donc dans l'atelier où les deux escrocs travaillaient sur leur métier vide. « Que le ciel nous protège, » pensa le ministre en écarquillant les yeux, « je ne vois rien du tout. » Mais il se garda bien de le dire. Les deux escrocs invitèrent le digne homme d'État à approcher et lui demandèrent s'il ne s'agissait pas là, en effet, d'un joli motif et de magnifiques couleurs. Et ils lui montrèrent un métier vide. Le pauvre vieux ministre écarquilla encore plus les yeux, mais ne vit toujours rien, puisqu'il n'y avait rien. Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je sot? Je ne l'aurais jamais cru et personne ne doit le savoir. Serais-je inapte à mon travail? Non, il ne faut pas raconter que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, vous ne dites rien, demanda l'un des tisserands? Je trouve l'étoffe ravissante, tout à fait magnifique, répondit le vieux ministre en regardant au travers de ses lunettes. Ce motif et ses couleurs, je ne manquerai pas de dire à l'empereur que tout cela me plaît beaucoup. « Nous nous en réjouissons, » lancèrent les deux tisserands. Puis ils nommèrent les couleurs et expliquèrent le motif. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir lui-même en parler dès son retour auprès de l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Les deux escrocs exigèrent encore plus d'argent, plus de soie et plus d'or pour leur tissage. Ils mirent tout dans leur poche. Et rien sur leur métier, mais ils continuèrent, comme ils l'avaient fait jusque-là, à faire semblant de travailler. l'empereur envoya ensuite un autre honnête fonctionnaire pour voir comment allait le travail et si l'étoffe se trouverait bientôt prête. Et il arriva à cet homme ce qui était arrivé au ministre. Il regarda et regarda encore. Mais comme il n'y avait rien sur le métier, il ne put rien y voir. « Eh bien, n'est-ce pas là une magnifique pièce d'étoffe ?» lui demandèrent les deux escrocs en lui montrant et expliquant les splendides motifs qui n'existaient que dans leur récit. « Mais je ne suis pas sot, se dit le fonctionnaire, et il faut donc que je ne convienne pas à mes fonctions, voilà qui est étrange, mais je ne dois rien laisser paraître. » Et il fit l'éloge de l'étoffe qu'il n'avait pas vue, puis exprima la joie que lui procuraient les couleurs et le merveilleux motif. « Oui, une pièce tout à fait merveilleuse !» annonça-t-il à l'empereur. Dans la ville, tout le monde ne parlait plus que de la magnifique étoffe. Si bien que l'empereur n'y tint plus, et voulut voir l'objet de ses propres yeux tant qu'elle se trouvait encore sur le métier. Accompagné de toute une foule de dignitaires, dont le ministre et le fonctionnaire, il alla donc chez les deux escrocs, lesquels tissaient de toutes leurs forces, mais sans le moindre fil. Alors, ne trouvez-vous pas ce tissu magnifique ? Demandèrent les deux fonctionnaires déjà venus. Que votre majesté admire les motifs et les couleurs. Puis, ils montrèrent du doigt un métier vide, s'imaginant que les autres, eux, pouvaient voir quelque chose. « Mais comment ?» pensa l'empereur. « Mais je ne vois rien. C'est affreux. Serais-je sot ? Ne serais-je pas fait pour être empereur ? Ah ! Voilà bien le plus terrible qui puisse jamais m'arriver. « Magnifique, ravissant, parfait !» dit-il finalement. « Je donne ma plus haute approbation. » Il hocha la tête en signe de satisfaction et contempla le métier vide. Mais il se garda bien de dire qu'il ne voyait rien. Toute son escorte regardait, regardait encore, mais comme pour tous les autres, rien ne leur apparaissait. Finalement, tous affirmèrent, comme l'empereur, « véritablement magnifique ». Puis ils conseillèrent à l'empereur de porter ses magnifiques vêtements pour la première fois, à l'occasion d'une grande fête qui se préparait. « Merveilleux, splendide !» Ces adjectifs résonnaient dans toutes les bouches, et chacun semblait se réjouir. L'empereur décora alors chacun des escrocs d'une croix de chevalier avec en prime le titre de gentilhomme tisserand. La nuit qui précéda le grand jour de la fête, les escrocs restaient réveillés à travailler avec 16 chandelles. Tout le monde pouvait se rendre compte du mal que les deux ouvriers se donnaient pour terminer les habits de l'empereur. À l'aurore, les tisserands, avec un grand soupir, firent semblant d'enlever l'étoffe de leur métier, coupèrent l'air avec de gros ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil, et lancèrent finalement « Voyez, les habits neufs de l'empereur sont à présent terminés !» « Majesté, voici le pantalon, voilà la veste, voilà le manteau, et ainsi de suite. Aussi léger qu'une toile d'araignée, on croirait presque qu'on n'a rien sur le corps, mais là réside toute la qualité du tissu. »« Oui, oui !» affirmaient tous les courtisans sans rien voir, puisqu'il n'y avait rien. « Votre Majesté impériale veut-elle avoir l'insigne bonté d'ôter ses vêtements ?» afin que nous puissions lui mettre les nouveaux, là, devant le grand miroir. L'empereur enleva alors tous ses beaux vêtements, et les escrocs firent comme s'ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit qui, apparemment, venait tout juste d'être cousu. L'empereur se tournait et se retournait devant le miroir. « Dieu, comme cela vous va bien, et quel dessin, quelle couleur !» s'exclamait tout le monde. « Voilà !» un précieux costume. Ceux qui doivent porter le dais au-dessus de votre majesté viennent d'arriver, annonça le maître des cérémonies. Je suis prêt, déclara l'empereur. Ce vêtement ne me va-t-il pas admirablement ? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il devait avoir l'air de bien contempler son costume. Les chambellans qui devaient porter la traîne du manteau tâtonnaient bien un peu sur le parquet, mais ils faisaient semblant d'attraper et de soulever leur fardeau dignement. Ils allaient et marchaient les mains en l'air, ils ne voulaient sûrement pas montrer qu'ils ne voyaient rien. C'est ainsi que l'empereur défila sous le magnifique dé. Et tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leurs fenêtres s'enthousiasmaient. Les habits neufs de l'empereur sont admirables. Quel magnifique manteau, quelle traîne de toute beauté. Ah, comme elle s'étale avec splendeur. Personne ne voulait se deviner qu'il ne voyait rien. Cela aurait montré qu'il était incapable ou sot. Aucun costume de l'empereur n'avait jamais connu un tel succès. Mais l'empereur est nu. Il ne porte pas d'habit du tout, cria brusquement un enfant dans la foule. Écoutez la voix de l'innocence, lança le père, et aussitôt chacun murmura à son voisin les paroles de l'enfant. La foule entière se mit bientôt à hurler. Mais il ne porte pas d'habit du tout. L'empereur frissonna, car il sentait un peu le froid sur son dos, et il lui semblait bien que le peuple avait raison. Il se dit pourtant qu'il valait mieux aller jusqu'au bout du défilé. Le cortège poursuivit donc sa route, et les chambellans continuèrent de porter une traîne qui n'existait pas.
J'espère que ça vous a autant plu à vous qu'à moi. On va écouter maintenant un album que j'apprécie beaucoup, qui est de l'adorable, de la toujours magique Charlotte Gainsbourg, qui a dit avoir voulu se remettre à la musique après donc l'album qu'elle avait chanté aux côtés de son père quand elle était enfant ou tout début de l'adolescence. C'était Portishead, le groupe des années 90 qui lui avait redonné envie de faire de la musique, et elle en refait très très bien, notamment avec ce titre Deadly Valentine. We'll be right back. J'ai un quiz. J'ai des questions assez bien tournées sur Notre-Dame. Et donc, Stéphane, tu vas jouer contre toi-même.
Puisque contre moi-même.
Les batailles contre soi-même sont toujours les plus fécondes, les plus intéressantes. Donc, tu en sortiras forcément grandi.
C'est pas moi qui devrais te poser les questions
Non, parce que moi, je connais la réponse, je les ai sous les yeux.
Bah, on peut changer de téléphone, hein.
Non, parce que j'ai lu, je prépare mes émissions, moi, tu vois. Tu vois le genre.
Ouais, tu vois le genre, ouais.
Tu vois le genre. Ok.
J'espère que je pourrai répondre à une question, quoi.
Elles sont relativement faciles pour un Parisien.
Ah, pas de bol.
Que représente la plaque de bronze située au centre du parvis? Je te donne trois options. Le kilométrage zéro du départ des routes de France. La date de la pose de la première pierre de la cathédrale, ou bien le centre de Paris.
Le kilométrage zéro.
Et c'est exactement ça. C'est le point zéro des routes de France qui sert de référence pour le calcul des distances avec les autres villes. Le centre de Paris se trouve à la pointe de l'île de la Cité. Ça, on le sait moins. Dis-moi maintenant...
C'est quoi le centre de Paris? Chaque fois qu'ils construisent une nouvelle maison, le centre est rouge.
Tout le monde l'ignore parce que ça n'a aucune importance.
Voilà, ça n'a aucun sens.
Aucune importance.
Okay.
Combien de visiteurs environ accueillent chaque année Notre-Dame? 6 millions? 10 millions? Ou 13 millions?
6 millions.
6 millions? Eh bien, tu as tort, c'est 13 millions. C'est le site culturel le plus visité de Paris. La basilique du Sacré-Cœur compte 10 millions de visiteurs, le Louvre 8 millions et la Tour Eiffel est proche de 6 millions. Notre-Dame est le deuxième site français le plus visité après...
Après le Louvre.
Non, tu n'écoutes rien.
Tu es
fantomatique.
Le Louvre, c'est 10 millions.
Après, donc c'est le deuxième le plus visité avec ses 13 millions. Donc,
ah, il y en a un autre.
Oui, qui est Disneyland.
Oh là là, c'est pas vraiment Paris, ça.
C'est pas vraiment la France, non.
Non, c'est pratiquement les États-Unis. Quoi.
Sur quel roi de France est posée la première... Pardon. Sur quel roi de France est posée la première pierre de Notre-Dame? S'agissait-il de Louis VII, de Philippe Auguste ou de Louis IX?
C'est au XIIe siècle, non?
Oui.
Louis VII, ça semble un peu lointain. Philippe Auguste, je ne sais pas trop qui c'est. Donc, mettons Louis IX.
Eh bien, c'était Louis VII, qui fut roi de France entre 1120 et 1180. La première pierre fut posée par le pape Alexandre III en 1663. Celui-ci est en exil en France, chassé par... 1163. Celui-ci est en exil en France, chassé par Frédéric Barberousse. Le chantier est lancé par l'évêque de Paris, Maurice de Sully, et la cathédrale sera achevée en 1345 sous Philippe VI. Eh bien, voilà notre quatrième question. En 1239, Notre-Dame accueille un objet peu ordinaire. Est-ce une cloche, une statue de la Vierge ou la couronne d'épines du Christ?
Je sais qu'il y avait la couronne d'épines du Christ, mais est-ce qu'elle arrive en 1239?
Et pourquoi pas en 1240?
Allez, va pour la couronne.
Eh bien, tu as là ta deuxième bonne réponse. Ah, la couronne d'épines du Christ. Après de multiples pérégrinations, la couronne d'épines est rachetée par Louis IX et arrive avec d'autres reliques en cortège royal le 19 août 1239 à Notre-Dame. Elle est ensuite disposée dans un reliquaire de la Sainte-Chapelle édifié pour abriter les reliques de la Passion du Christ et elle réintègre le trésor de la cathédrale le 10 août 1806.
Pourquoi est-ce qu'elle réintègre?
Parce qu'elle en était sortie.
Et pourquoi elle en est sortie?
Pour prendre l'air.
Entre 1200 et 1800.
Pour aller chercher le pain. Pour...
À cause d'une guerre. En...
Ou d'un, peut-être d'un malentendu, incendie, d'un chagrin d'amour. Enfin, tout peut arriver.
Allez.
En 1793, que devient Notre-Dame? Donc, en pleine révolution terreur, de révolution française sous le règne de la terreur. Que devient Notre-Dame? Elle n'est plus une cathédrale. Elle est une prison, un entrepôt ou un hôpital?
Ouais, va pour l'hôpital.
et c'est un entrepôt. Après 1790, Notre-Dame est vandalisée, les statues décapitées, notamment celles des rois de Juda. Reconverti en temple de la déesse Raison en 1793, le bâtiment accueille les fêtes de la liberté. Et abandonné, on y stocke des tonneaux de vin, on y vend des matériaux dépecés, comme des boiseries. Et maintenant, cher Stéphane, vous allez me dire combien de statues ornent la galerie des rois de la façade de la cathédrale. Y en a-t-il 7, 15 ou 28 ?
Oui, il y en a sûrement beaucoup, on va pour 28.
Eh bien, c'est exactement ça. Ces statues représentent 28 générations des rois de Juda, descendants de Jessé et autres humains de Marie et de Jésus. Les gens vont très vite les confondre avec les rois de France et cette tradition subsistera jusqu'à la Révolution pendant laquelle elles sont décapitées. Maintenant, à qui attribue-t-on le sauvetage de Notre-Dame ? Qui, à cette époque, tombait en ruine.
Tu veux dire après l'entrepôt, là ? À quelle époque parlons-nous ?
La grande figure à qui on doit le sauvetage de Notre-Dame.
Ouais, ouais.
Et s'agit-il de Napoléon, de Victor Hugo ou d'Eugène Viollet-le-Duc ?
C'est Viollet-le-Duc, tout le monde sait ça. Quoi.
Ben non, c'est lui qui l'a rebâti, mais c'est lui qui,
pas Luc Capet,
qui a redonné de l'intérêt pour ce monument fut Victor Hugo. Les conséquences de la Révolution ont rendu le bâtiment proche de la démolition. La publication du quatrième roman d'Hugo, Notre-Dame de Paris, est un succès et relance l'intérêt pour le Moyen-Âge. Le gouvernement du roi Louis-Philippe Ier décide d'une grande restauration sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc. Tu n'as pas tout à fait tort, ni tout à fait raison. À partir de 1844, Napoléon rend la cathédrale au culte en 1801 et y est sacré empereur en 1804. Maintenant, ça aussi, c'est relativement connu, ça fait partie de la légende de Notre-Dame. Mais tu es bien plus que cela.
Je suis pas parisien.
Mais tu es bien plus que cela.
Je suis belge.
C'est bien plus. Qui est représenté sous les traits de Saint Thomas, une des statues autour de la flèche ? Qui est représenté sous les traits de Saint Thomas, une des statues autour de la flèche ? S'agit-il de Viollet-le-Duc, de Victor Hugo ou de Quasimodo ?
Viollet-le-Duc.
Et tu as tout à fait raison, lui-même. Pour la statue censée incarner Saint Thomas parmi les 12 apôtres et les 4 évangélistes, il s'est représenté leur tournant le dos avec son équerre admirant son œuvre. C'est intéressant, quelle mégalomanie.
Ça me semblait un peu tôt pour Quasimodo, quoi. Puisqu'il venait, c'est Victor Hugo qui a lancé l'intérêt, il venait de l'écrire. Il n'allait pas dans la foulée et lui construire une statue, quoi.
Il y avait de l'immédiateté à l'époque aussi. On attendait. C'est pas parce qu'on parle d'histoire.
Oui, mais d'un côté, c'est l'architecte. L'architecte peut facilement lui mettre son portrait là-haut où personne ne la voit.
Oui, ouais, non, c'est une belle déduction. Le 850e anniversaire de Notre-Dame est marqué par la venue du pape,
l'incendie,
l'arrivée de nouvelles cloches, ou alors la comédie musicale Notre-Dame de Paris.
Une nouvelle cloche.
C'est exactement ça. Pour le 850e anniversaire de la cathédrale en 2013, 9 nouvelles cloches ont remplacé les 4 précédentes. Maintenant, 8 sont installées dans la tour nord. Leurs noms sont Gabriel, le fameux Bourdon, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie. Dans la tour sud, un deuxième Bourdon, Marie, tient accompagné du Bourdon, Emmanuel, pardon, j'avais dit Gabriel, c'est Emmanuel, le Bourdon que l'on connaît le plus. Eh bien, tu as tenu un... C'est plus que raisonnable. Je pense que si tu avais donné des solutions au hasard, tu aurais peut-être obtenu un meilleur score. Mais c'est très bien.
Merci Romain.
Mais c'est très très bien. Alors,
c'était combien mon score ? Mais il y a une fois, tu as poussé sur Victor Hugo quand j'ai mis Viollet-le-Duc.
Non, je te l'ai accordé. Tu en as 4 sur 10.
4 sur 10, pas terrible.
Tu n'as que 3 sur 10. Et maintenant, nous allons écouter un éloge de l'orthographe chanté par Serge Gainsbourg lui-même après la fille, le père. C'est rigolo, ça s'appelle En relisant ta lettre.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne point qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte,
ça c'est correct,
au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un dé,
tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur,
là, y en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute.
Là, il n'y en a pas.
Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, aux œufs dans l'eau.
C'était la fête des mères aujourd'hui.
Absolument. T'as fait quelque chose?
Oui, j'ai fait quelque chose, je fais toujours quelque chose. C'est un événement que j'aime beaucoup. On ne se fait pas de cadeaux, les enfants font des cartes. Et nous préparons ensemble, les enfants et moi, là, un petit déjeuner d'exception avec jus d'orange, pancakes.
Petit déjeuner au lit.
Petit déjeuner au lit, non. Elle a tenu à nous accompagner autour de la table. Après quoi, tout le monde a sauté dans notre grand lit. On a un lit grand comme un petit parking.
On a tous déjeuné dans le lit.
Ouais, c'est pas mal. C'est salissant.
C'est salissant. Tout à fait.
Et puis on a lu, chacun a lu un bouquin. Pendant une demi-heure, dans le lit, on a rigolé. C'était ça. Et toi?
Bah, petit déjeuner au lit, et puis...
Quel était le menu?
On a fait des toasts avec du jambon et du fromage et du jambon, mm-hmm. avec un jus de feijoa, un café.
Mm-hmm, très bien.
Et puis... Et après ça, on est allé, parce que Fred, elle participe au jardin communautaire, là, on en a déjà parlé sur l'antenne. À Unitech, là. Et il y avait une journée spéciale, tout le monde doit venir travailler 2 heures, etc. Donc on est tous allés avec elle.
Sous la pluie et le vent.
Bah, ça s'est arrêté de pleuvoir juste quand on était là.
Oh, c'est miraculeux, ça. Ouais. Un signe du destin.
On a fait un grand compost, on a été chercher des feuilles mortes pour empiler dans le compost. Voilà.
Et bien, bon...
Et puis là, on va aller, après la radio, là, on va aller... Il y a un truc au centre, là, il y a des lumières... C'est quoi là? Elle m'a envoyé un lien là. Comment ça s'appelle? Attends, je vais trouver. Heart of the City Festival Bright Night. T'as entendu parler de ce truc? Bright Night. A Waterfront Lightning Experience at Viaduct. Ce soir.
De quoi s'agit-il en français?
Bah, un truc avec un éclairage, un spectacle de lumière au viaduc. Ce soir, enfin c'est depuis vendredi, ça termine ce soir, à partir de 6h, donc ce soir. Donc il y a des lumières.
Des lumières.
Ah, je sais pas très bien, j'ai pas trouvé. Il parle des bateaux, il y aura de la musique, il y a un performeur, pourra manger. Voilà.
Si la lumière noire, si la nuit était une solitude, elle serait déchirée.
C'est la lumière, parce que...
La lumière artificielle si...
Oui, des lampes.
Ah, moi, non, moi je suis pour que la lumière naturelle.
Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, parce qu'il y a la journée internationale de la lumière dans quelques jours. Là.
Non, moi, quand il s'agit de lumière, je suis très très bio, quoi. Je suis très très lumière naturelle.
Allez,
je
ne
supporte
quoi.
Pas la lumière artificielle.
Les vers luisants.
Donc aller voir un spectacle... De lumière artificielle, c'est comme si tu me demandais d'aller voir un spectacle où tu vois une sorte de marché de conservateurs ou d'alluvions, tu vois, de saloperies. Ça ne m'intéresse pas.
Donc la nuit, t'éteins les lumières alors, en hiver?
Je le fais, mais parce que je n'ai pas d'autre solution. Je le fais à contre-cœur.
Tu peux allumer des bougies, hein. C'est
oui,
naturel.
Oui, mais, c'est, mais je vois plus rien. Je vois plus rien.
Il faut choisir.
Ça, je, oui. Non, je le fais à la Baudelaire, quoi. J'écris mes poèmes à la bougie.
T'écris des poèmes?
Oui, de temps en temps.
Tu devrais nous en lire un?
Non, après je les jette.
C'est vrai.
Mm-hmm, ce sont des poèmes éphémères.
Mais ils parlent de quoi, tes poèmes?
Ils parlent de moi. Une façon de voir le monde.
Il y a quelque chose à dire?
Non, il me vient parfois des fulgurances, mais jamais assez. C'est toujours assez moyen. Je n'ai pas beaucoup de talent. Je suis quelqu'un d'assez médiocre.
Ah, je sais pas, tu devrais aller... Mais non, si tu les jettes tous à la poubelle, tu vas jamais les publier, quoi.
Non, je ne crois pas à la publication. Je crois qu'il y a des... Les gens parlent trop d'eux.
Tu n'es pas obligé de mettre ton nom en bas?
Déjà, je crois que cette conversation a assez duré.
Ça, c'est la manière de Romain de me dire tais-toi.
Non, pas du tout. Je pense que tout le monde se donne beaucoup trop d'importance. Voilà.
Moi, ça m'intéresse de lire tes poèmes. Pas pour ton importance.
Ils sont pas assez bons. Sinon, je te les ferais lire avec grand plaisir. On va écouter Yves Simon qui chante Diabolomante. Et si tu ne connais pas, je pense que tu
vas
aimer.
Bien sûr que non, je connais pas.
Mais je pense que tu vas aimer. Tout le monde a oublié Yves Simon.
Bah, j'ai jamais entendu parler. Donc.
Non, mais c'est bien.
Il fait partie.
C'est bien d'écouter les choses pour la première fois. Tu as ta chance.
Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur. Les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne.
On voulait lancer un débat sur la peine de mort, mais on s'est dit non. En fait, non, on va pas le faire.
On a pas déjà fait ça. Bah, sans toi, t'es pour, non?
Non. Enfin, je reviens. J'essaie de déconstruire tous mes a priori. Celui-là, j'étais tout à fait contre. J'avais été séduit par les arguments que Camus avait développés dans un petit texte sur la guillotine. Je pense que c'est barbare, mais en même temps, je me dis que ça, dans certains cas, ce n'est pas forcément immoral. Par exemple, je ne suis pas contre l'assassinat politique. Je pense qu'il y a des personnes dont l'État doit pouvoir se débarrasser pour le bien de tous.
Pour le bien de tous.
Je pense qu'il y a des gens irrécupérables.
Ça, c'est sans doute vrai.
Qui commettent des crimes atroces. Pourquoi les garder en vie? Je suis très partagé. Je voudrais pas donner mon avis parce que je n'en ai pas. Je suis divisé. Une partie de moi contre moi-même. Bon, on avait dit qu'on en parlerait pas.
Ben voilà. Mais
pourquoi tu me dis?
N'en parlons pas.
Non, pourquoi tu penses que je suis pour la peine de mort?
Ah non, c'était pour te provoquer.
Parce que j'ai une gueule de mec de droite, c'est
mais
ça?
Non, pas du tout.
Parce que je suis chauve.
C'était juste pour te provoquer. Okay. J'espérais bien que tu n'étais pas pour.
Je sais pas, moi. Je ne sais plus rien. Allez, on écoute Jacques Higelin qui chante Tomber du ciel.
Tomber du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour avec une hôtesse de l'air fidèle. Tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gage. Comment peut-on tomber plus bas? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut comme les petits gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Aux heures de girouette, les hauts du clocher donnent à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tomber à la fleur de l'âge, dans l'oubli solo. Poison qui tue l'amour.
Merci Stéphane d'avoir,
merci Romain,
d'avoir appuyé sur tous les bons boutons.
Ouais, sans faute aujourd'hui.
Non, sans faute, c'était bien.
Ouais.
Droit au but.
Voilà.
Et on a ni trop parlé ni pas assez.
J'apprends plein de choses.
Moi aussi.
Et nos éditeurs aussi.
Oui, sur la nature humaine.
Sur Jean-Pierre Marielle surtout.
Oui. Et ça, c'est un gros trou dans ta connaissance que je viens de combler avec bonheur.
Voilà.
On vous embrasse et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.